Alors, nous allons ici maintenant aborder un sujet qui entre de plein pied dans toutes les polémiques dont parlait Françoise ce matin, c'est-à-dire que nous allons nous attaquer à la question des acteurs, des personnages, des figures, des protagonistes qui sont présents et présentes, plus présents que présentes, vous verrez, dans les 6000 récits que nous avons collectés. Alors, ce que vous avez sous les yeux, là, c'est ma nouvelle lubie. J'ai appris à faire ça il y a une semaine, les nuages de points, de mots. Ça, c'est l'ensemble des 6000 récits lorsque vous les mettez dans la moulinette logicielle. Voilà ce que ça vous sort. Donc, vous voyez que c'est quand même déjà assez parlant. Et puis, je vous en montrerai quelques autres pour ce qui concerne les personnages. Quelques mots d'abord sur la méthodologie. Pour cadrer un petit peu notre intervention, nous allons, alors évidemment c'est un bilan d'étape, tout le monde l'a rappelé aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques données, y compris des données statistiques, ce n'est ni notre spécialité, ni à moi, ni à Benoît, mais nous avons fait quand même quelques efforts de quantification, quelques efforts aussi de croisement de variables. Juste pour préciser, donc nous allons nous répartir un petit peu le travail. Je vais davantage évoquer tout ce qui relève du fichier du secondaire, tandis que Benoît, qui vient de soutenir sa thèse sur l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, lui interviendra davantage sur les fichiers concernant le primaire. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers à peu près des fichiers concernent le primaire et les deux tiers concernent le collège. Deuxième point important, nous avons fait quelques croisements de variables, mais pour le moment, nous n'avons pas pris en compte les variables sociales, je sais que c'est un petit peu dommage, ni même les variables ethniques, entre guillemets. La seule possibilité que nous avons eue de quantifier l'ethnique, c'était notamment la langue parlée à la maison. Donc il y aurait quelque chose à faire avec ça, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore fait. Deuxième précaution méthodologique, le colloque s'intitule « Questions à l'enseignement ». Donc nous allons vraiment aussi nous focaliser sur l'effet de miroir, on va dire, entre les récits que nous avons collectés, ce que nous y avons identifié et décelé comme type d'acteurs, de héros, de protagonistes, et le miroir avec les programmes essentiellement. Alors on peut le justifier dans la mesure où parmi les questions posées, vous savez que Valérie vous a dit ce matin que parmi les questions il y avait quelle est la première, comment avez-vous su tout ça? Et en fait 55% des premières réponses montraient que la source d'origine des savoirs historiques de nos élèves, des élèves qui ont travaillé là, c'était soit les cours, soit les manuels scolaires. Donc du coup ça a justifié que nous fassions cette articulation avec les programmes. Alors d'abord, quelques cadrages aussi sur le plan, on va dire, historique et philosophique. On sait bien que en France, en tout cas, les modalités de l'apprentissage de l'histoire passent par des personnages qui constituent des formes de jalons. C'est appelé par un certain nombre de points, et notamment par l'histoire, de l'enseignement de l'histoire, qui... vous le savez, au XIXe siècle, s'est constitué à partir de ce que certains ont appelé le roman national, c'est-à-dire au fond une forme de patrimonialisation de récits qui, pour différentes raisons que va nous donner Benoît ici, s'appuie en particulier sur des protagonistes.
Oui, il y a là un poids très normatif du primaire dans la construction de ce panthéon scolaire. Il y a plusieurs travaux qui existent, que ça soit Jean-François Chanet, Christian Amalvi, Patrick Cabanel, qui a travaillé sur le certificat d'études. Et Cabanel, notamment, pour le certificat d'études, opère une sorte de recension de quels sont les personnages du panthéon. Et en cela, vous allez voir, ce sont des héros très ou des personnages très conformes à finalement l'historiographie du temps. Il y a une première catégorie dans la Constitution, parce que dès l'introduction, après, ça nous permettra de voir les évolutions, bien entendu, et la situation aujourd'hui. D'abord, les grands commis de l'État, Sully, Colbert, Richelieu, qui côtoient les grands rois, et très souvent ces commis ont plus d'importance que les rois eux-mêmes. Charlemagne, bien sûr, Henri IV, Louis XIV, Henri IV, qui pour la Troisième République est le héros par excellence de l'État laïque. Évidemment, il y a les fidèles militaires, Bayard, du Guesclin, Jeanne d'Arc. Et Cabanel reprend les enquêtes d'opinion de ceux qui sortent de l'école, des Français par sondage. Et notamment, il pose une question, enfin, il reprend les questions qui étaient posées à l'époque, il la reformule en 99. Avec quel personnage historique souhaiteriez-vous manger si vous en aviez l'occasion? Et Napoléon arrive en tête, toutes catégories confondues, suivi de Henri IV, et on voit là le poids de la Troisième République. 11% disent Jeanne d'Arc. Mais voilà le trio gagnant. Et on retrouve, dit Cabanel, ce qui est intéressant, c'est on retrouve dans une enquête qui reprend à peu près dans les mêmes termes la question, on retrouve ces mêmes pourcentages et la même liste de personnages. Donc on a bien Napoléon, Louis XIV, Charles de Gaulle, très peu, mais quand même, c'est surtout après son départ du pouvoir.
Alors, d'abord, il est clair que les définitions de ce qu'on pourrait appeler des héros ou des protagonistes ou même des acteurs ne sont pas tout à fait les mêmes entre ce 19e siècle présenté par Benoît et puis aujourd'hui. Alors, nous avons préféré parler de protagonistes, protagonistes individuels, protagonistes collectifs. Ici, vous avez sous les yeux un petit peu statistiquement ce que ça donne, en tout cas de manière générale, dans les différents récits. Le protagoniste pour nous, c'est comme ça que nous l'avons codé, donc on avait tous les récits et puis on a codé protagoniste individuel, protagoniste collectif, quasi-personnage, féminin et masculin. Voilà comment on a codé. Hein. Le protagoniste pour nous, c'est celui qui impulse quelque chose. Alors évidemment, ça semble évident comme ça, mais vous allez voir que dans certains récits, c'est très difficile de trouver celui, celle ou ceux qui impulsent, parce que parfois, il n'y a même pas d'impulsion dramatique. Mais en tout cas, voilà, on a considéré qu'à partir du moment où il y avait quelqu'un qui agit ou même qui est agi, qui subit, on pouvait parler de protagoniste des récits. Le héros, c'est autre chose. Le héros, c'est lorsque l'élève lui-même parle de héros. Alors, il peut l'appeler autrement. Il peut dire les personnages principaux, on va le voir tout à l'heure, les principaux personnages, les personnages significatifs, les grands hommes, etc. Mais c'est lorsqu'il y a en tout cas l'intention de cibler un personnage spécifique comme ayant fait quelque chose d'extraordinaire dans sa manière, dans la manière de l'élève de dire les choses. Voilà. Donc ça, c'était pour la définition de ce que nous avons, de ce que nous avons codé. Vous le voyez, les protagonistes individuels sont présents dans 60% des récits. À peu près la même chose pour les protagonistes collectifs. Les protagonistes masculins sont présents dans 60% des récits. Les protagonistes féminines sont présentes dans 7% des récits. Et les quasi-personnages, 16% des récits, sachant que c'est l'entité la plus difficile à coder, parce que quasi-personnage, c'est par exemple « la France fait ceci, les États-Unis font ceci ». C'est lorsqu'on attribue... Non, alors justement, ça a été un problème qu'on a eu lorsqu'on a codé. On s'est posé la question, est-ce qu'on le code comme collectif? Ça dépendait du sens du récit.
Les soldats américains, oui, voilà. En collectif.
Les soldats américains, mais les États-Unis, c'est un quasi-personnage.
En fait, on rentrait là dans les catégories de Ricoeur dans temps et récit sur le fait qu'il y avait des acteurs qui n'étaient pas des acteurs de fait, ni collectifs, ni individuels, mais bien des acteurs, une entité qui faisait office d'acteur.
Quelques mots pour commencer, pour reprendre un petit peu ce que disait Bruno sur ce que la question qui a été posée aux élèves, donc raconte, on avait en plus ajouté, raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays, François ne l'a pas dit, c'est comme tu le veux, sur ce que ça a impulsé comme type de récit du point de vue des acteurs.
Oui, faut que je dise un mot là.
Oui, c'est à toi.
Non, qu'on avance. Juste rappeler, mais je pense que Bruno l'a fait magnifiquement ce matin, c'est que les élèves respectent au fond la distinction entre l'histoire et la littérature. Et c'est ça qui, pour moi, est sur le primaire en tous les cas et sur le reste. Bon, on sait qu'il y a une homologie entre tous les deux récits sont constitués temps, récit, vérité, avec un régime de vérité spécifique. Mais clairement, les élèves ont intégré les formes narratives déjà entendues ou rencontrées depuis l'enfance. Et c'est ça qui nous semble intéressant, c'est la mise en intrigue, qu'elle est présente avec des personnages actifs, une structure narrative équivalente. Et Bruno Garnier l'avait expliqué ailleurs, le fait que la forme narrative était habituellement celle de la fiction, les élèves ont pu y voir l'opportunité, quand ils travaillent sur les récits d'histoire, de choisir ce qu'ils qu'ils savent, ce qu'ils ont envie de dire, dans une liberté de laisser à côté ce qu'ils connaissent mal ou moins bien ou qu'ils n'ont pas envie d'évoquer. Et les récits d'élèves font état à la fois d'un stock mémorisé de trames et dès le primaire, et j'y tiens beaucoup, et de structures narratives accumulées depuis la petite section de maternelle. C'est-à-dire, il y a toute une série de choses comme ça, et du coup, dès lors, d'une conscience historique particulière, comme on va essayer de le montrer.
Alors, on va procéder en trois parties. D'abord, dans une première partie, on va vous présenter le panthéon général de l'ensemble de ces récits, en se focalisant essentiellement sur les protagonistes individuels. Ensuite, nous vous parlerons des profils et des fonctions des protagonistes. Vous verrez que ça dit aussi des choses sur le rapport aux politiques des récits, et notamment des choses qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on a pu voir ce matin, on le verra. Et puis on terminera par les scénarios, la place des acteurs, comment tout ça est agencé et qu'est-ce que ça fabrique comme type d'histoire, histoire au pluriel. Alors d'abord, commençons par, juste avant d'amorcer le Panthéon, un petit calcul. Celui-ci a été fait de manière très intuitive. Lorsque l'on quantifie l'ensemble des entités collectives et des entités individuelles, on est à peu près un rapport de 1 sur 2. Donc, premier constat, une très forte personnification de l'ensemble des récits. Donc là, c'est très simple, juste quantifier les acteurs individuels. On a additionné les nombres d'occurrences dans un cas et dans l'autre, et on a un rapport d'à peu près 1 sur 2. Le Panthéon dans les récits. Alors voilà la mise en image du premier. Il est bien. Hein,
il est très beau.
J'ai fait exprès de mettre un gros Louis tout seul d'abord parce que tous les rois sont Louis, hein, le gros Louis. Et vous voyez déjà, on va rentrer dans les détails, mais déjà vous voyez qu'il y a évidemment une hégémonie écrasante des protagonistes de nature monarchiste. Et ce n'est pas... Ah oui, pardon. La manière dont les élèves eux-mêmes qualifient les mots de l'héroïsation, vous avez dans les récits 105, c'est pas tant que ça d'ailleurs, qui vont parler de personnages, 10 de grands personnages, 5 de principaux personnages et 19 seulement vont parler de héros. Voici le panthéon masculin, le classement des 10 premières occurrences masculines dans le panthéon. Tout récit confondu, secondaire comme primaire, on fera une petite différence avec le primaire tout à l'heure. Donc, Louis XIV, alors vous avez vu, j'ai mis 14 plus 14 plus Roi Soleil. Si on additionne ces trois-là, on obtient 1703. Napoléon est battu, de peu, mais il est quand même battu, mais vous voyez qu'ils sont quand même tous les deux en tête. Charlemagne, Louis XVI, Clovis, De Gaulle, Hitler... Hitler a une part très très importante dans le panthéon masculin. César, Vercingétorix et Pétain. Oui, le seul étranger individuel. On verra qu'il y a des étrangers aussi collectifs. Maintenant, le panthéon féminin. Jeanne d'Arc, encore faudrait-il interroger la féminité de Jeanne d'Arc dans le panthéon national, c'est une autre histoire. Marie-Antoinette, non, je ne plaisante pas pour en parler, mais je pense que Jeanne d'Arc a beaucoup d'attributs masculins dans le roman national. Marie-Antoinette, 122. Alors j'ai mis Marianne parce que quand même sinon ça faisait très très vide, mais avec point d'interrogation parce que c'est pas forcément une figure féminine, ça peut être aussi un quasi-personnage, d'ailleurs on l'avait codé comme quasi-personnage. Et Marie Curie, 14, donc première remarque, je ne m'étends pas dessus évidemment, un poids extrêmement fort des héros masculins et des héros traditionnels sans doute conçus par les représentations héritières de l'école primaire.
Alors, si tu peux remettre le panthéon masculin, voilà, parce que c'est lui qui domine. Les données de l'enquête, je vais vous donner le top 10 pour l'école primaire, dans l'ordre. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est Napoléon qui récolte le plus de citations. Charlemagne, Louis XIV, Louis XVI, Clovis, Hitler, et j'en dirai un mot tout à l'heure, Sarkozy, César... Vercingétorix en dernier, dans le top 10, hein, sachant que ce sont les plus fréquemment cités. Tous les autres, et Christophe Colomb pour le dernier, pardon. Napoléon, Charlemagne, Louis XIV, Louis XVI, Clovis, Hitler, Sarkozy, avant César, Vercingétorix, et Christophe Colomb. Hein. Les autres personnages étant très largement derrière avec des citations très peu nombreuses. Bon, la place qu'occupent les différents personnages qui sont cités le plus fréquemment par les élèves semble être directement à l'école primaire corrélée à la position qu'ils occupent dans le quotidien scolaire et notamment au rôle dans les leçons et les manuels scolaires depuis les années 2000. En général, Jules César et Vercingétorix, par exemple, sont peu cités au regard des autres, et ils sont naturellement associés et uniquement associés à la conquête romaine. Clovis, au fait qu'il est le premier roi de France, il est souvent cité comme ça, très rare mention du vase de Soissons, ce qui évidemment nous intéresse parce que ça veut dire une certaine disparition d'un récit patriotique. Charlemagne est certes empereur, mais avant tout, pour une écrasante majorité des récits, et je l'ai vérifié, il est d'abord l'inventeur de l'école. Jeanne d'Arc, très rarement évoquée comme ça a été dit, elle fait la guerre de 100 ans sans qu'Orléans et Chinon ne soient cités. Hugues Capet n'est compté que 12 fois sur 1873 récits. Bref, et de manière générale, tout le 19e siècle est absent ou quasiment absent. Le seul qui soit, c'est Napoléon III, mais à mon sens, il le doit à la postérité de son oncle principalement. Il est presque cité autant que Marie-Antoinette. Voilà, donc on a là un panthéon qui est particulièrement masculin, bien entendu, mais dans un ordre un petit peu différent du panthéon qui va s'étoffer ou se réorganiser, en tous les cas, pour le secondaire.
On peut donc, je vous ai mis exprès sous les yeux la liste des protagonistes individuels et collectifs de l'école primaire. On peut donc supposer un effet de programme très très fort, et notamment effet de programme de l'école primaire, puisque toutes les figures ici qui sont répertoriées donc à gauche, le taux de personnification en primaire est de 2 sur 3, hein, c'est énorme. Toutes les figures sont présentes dans l'ensemble des récits. Je vous l'ai pas dit, mais il y a à peu près entre 100 et 120 noms de personnages en fait dans les récits. Alors il y en a qu'on n'a pas mis là parce qu'on les cite une fois ou deux fois, mais il y en a plus d'une centaine. Donc c'est énorme. Il y a vraiment la propension à mettre des noms. Hein. Il y a une sorte de name dropping qui est permanent. Concernant le secondaire maintenant, l'effet de programme est, on va dire, peut-être moins visible et en même temps, il est quand même présent. Dans les programmes du secondaire que j'ai ici aussi décryptés, mais j'ai pas le temps de vous le montrer parce que Bruno regarde sa montre assidûment. Minutes. Dans les programmes du secondaire, on a une personnification qui est moins importante par rapport aux acteurs collectifs, même s'il y a encore des personnages qui sont cités et qui sont incontournables. On a malgré tout la possibilité et même le devoir de parler davantage de groupes sociaux, de groupes collectifs, d'acteurs collectifs, etc. Et cependant, quand on regarde de près les programmes du secondaire, on s'aperçoit qu'il est régulièrement question d'un personnage, d'une entrée par un personnage. Alors on laisse le choix sur le personnage en question, mais vous voyez que dans la trame du récit et dans le rapport à l'histoire qui est demandé, y compris dans le secondaire, c'est ce que j'appelle du faux collectif en fait, on a quand même un appel à transiter par le biais d'une personne. Hein. Même si on a davantage de liberté dans le choix du personnage, il y a quand même cet appel à personnifier. Donc je pense qu'il y a aussi un effet de programme sur ce qu'on a pu observer dans les récits de collège. Des apparitions également qui sont dues, je ne m'étends pas dessus, vous l'avez derrière moi, mais qui sont dues aussi, là aussi, à des nouveautés de programme et puis à l'histoire des arts, à des effets un petit peu patrimoniaux, en tout cas pour ce qui concerne le secondaire. Apparition dans le primaire aussi, très vite, Benoît.
Apparition dans le primaire ? Ah oui, il y en a deux, bien sûr. Bon, il y a Hitler et Sarkozy, j'ai pas besoin de le préciser, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que dans le panthéon scolaire historique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux personnages. Tout s'explique. Hein. Nicolas Sarkozy, il y a une explication de méthode. L'enquête s'est déroulée au moment de la campagne électorale de 2012. Et puis, la surmédiatisation du gouvernement Sarkozy, très certainement, a fait son œuvre. Pour Hitler, là, on est dans un effet, certainement, il occupe une place à part. Et je crois qu'on a là un effet des programmes de 2002 qui installe au mépris des programmes de 2008. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien comment progressivement on en vient à parler de la Shoah et d'Hitler dans les cours, beaucoup plus sans doute qu'auparavant. Il y a un effet programme là, mais je n'insiste pas parce qu'on n'a pas le temps. Il nous reste 3 minutes 50.
Les acteurs collectifs, les voilà. Ah, super. Donc, acteur collectif de trois natures, ça c'est le nuage, mais le nuage est spectaculaire, mais ici vous les avez de façon un petit peu plus précise. Trois natures, donc je ne détaillerai pas. D'abord, des personnages collectifs qui relèvent d'une forme de commun, ce qu'on a appelé un éternel déjà là, les Français, le peuple. Très peu de nations, l'occurrence de nations n'est quasiment pas mentionnée dans l'ensemble des récits. Le quasi-personnage de la France, etc. Des protagonistes avec un très fort référent monarchiste. Alors au total, on a 7728 occurrences qui réfèrent à un rapport à l'autorité, un rapport au pouvoir qui relève davantage des références de la monarchie. Si vous voulez par exemple le comparer avec, j'adore les nuages de Tag, sur la Révolution. Vous voyez que la Révolution est quand même d'abord aussi une affaire quand même de grands hommes et une grande femme. C'est là où elle est la plus importante. Des acteurs présidentiels, je passe, qui eux aussi montrent un rapport très important à la question de l'autorité, j'ai pas le temps de développer. Dans les guerres aussi, mais Eglantine vous en parlera, rapport très important au chef. Et si on compare par exemple à ce qui relève de la culture républicaine, c'est là que je disais que ça n'allait pas exactement dans le sens de ce qu'on a vu ce matin, les occurrences qui pourraient montrer, qui seraient susceptibles de montrer une culture républicaine par le biais des acteurs, encore une fois, hein, parce que ça peut se voir par d'autres mots, mais par le biais des acteurs, vous voyez que c'est des quantités complètement infimes, quelque chose que l'on retrouve aussi dans les programmes du primaire.
Il faudrait conclure, hein.
Et oui, si Bruno Garnier nous accorde juste une minute, c'est juste pour dire la place de trois personnages collectifs qui apparaissent dans les programmes de 2002 pour l'école primaire. La place des femmes, alors je vais en une phrase, ça va être évidemment lapidaire. Bon, elles sont très régulièrement envisagées dans leur statut de soumission. Ça, c'est une première chose. Si on prend les esclaves, pour le coup, là, il y a deux types de récits. Il y a les récits qui sont faits à La Réunion et qui sont très spécifiques et qui envisagent sur l'esclavage d'un point de vue assez irénique d'une certaine manière, et puis l'absence de récits ou des récits beaucoup plus lapidaires sur la période pour la métropole ou pour la Corse. Troisième groupe qui apparaît dans le programme 2002, et là on en a aussi une trace, ce sont les Juifs. De la même manière que le personnage de Hitler émerge dans la conscience historique des élèves des années 2000, disons, les Juifs et leur persécution pendant la Seconde Guerre mondiale sont très largement abordés par les élèves. Et là encore, on peut même dire qu'il y a un remplacement dans l'école primaire entre les résistants des années 70-80 et les Juifs aujourd'hui.
La seule occurrence qui est comparable sur les critères filles-garçons, c'est les Gaulois. Donc 202, exactement le même nombre, et c'est beaucoup plus inquiétant. La seule occurrence qui est vraiment supérieure dans le corpus des filles, c'est esclaves, 158 contre 20. Alors quel type d'histoire ? Je voulais vous montrer ce que j'ai appelé un peu la farandole des noms. Alors voilà, des effets de liste, énormément. Des effets de liste, ici en rouge, les acteurs individuels, en bleu, les acteurs collectifs. Des personnages qui sont entrelacés, des personnages qui, alors là, mais sans aucun ordre, arrivent simplement comme des espèces de cheveux sur la soupe, des convocations, des allants de soi. Alors puis là, vous voyez que ça part de la comtesse du Berry jusqu'au duc du Berry, etc., donc à Bourges. Des listes désarticulées, ce qu'on appelait des listes désarticulées, donc François Mitterrand avant Louis XVI, UKP après De Gaulle, etc. Des personnages emblématiques qui sont qualifiés comme tels, les principaux personnages de l'histoire de France sont Louis XVI, Louis XIV, Charlemagne, Clovis, UKP, etc. Personnages emblématiques de la France, De Gaulle, Pétain, Chirac, Nicolas Sarkozy. Des héros aussi qui sont qualifiés comme tels, donc Jean Important, premier héros français, le plus prestigieux empereur français, un des grands héros. Et puis on en a trouvé un, au moins un, récit sans protagoniste évident. Bon, j'ai pas le temps de vous lire, tant pis, on va s'arrêter là. Mais voilà, grosso modo, des histoires qui, pour le primaire, relèvent davantage de registres assez affectifs. Pour le secondaire, sont plus déshydratés, détachés, distanciés, avec un transit par le nom qui relève davantage d'une espèce de parcours obligatoire plutôt que de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'identification du personnage emblématique, etc. Merci, désolée pour la cadence.